Louis Huard, Le chemin du diable. C'était un beau et noble château que celui de Falkenstein, et placé sur le sommet d'une montagne escarpée, il dominait, comme l'aile d'un aigle, toutes les vallées des environs. Mais qu'il avait fallu de longues années pour construire et pour tailler dans le roc l'unique sentier qui y conduisait, et sentier si étroit que deux hommes pouvaient y marcher de front. Aussi aurait-ce été folie que de vouloir tenter l'attaque d'un pareil manoir. Un seul quartier de roc lancé contre les assaillants les aurait précipités avec fracas au fond du ravin. Le lieu sauvage où était construit le château semblait avoir influé sur le caractère de son possesseur. Toujours les sires de Falkenstein étaient renommés pour la rudesse de leur forme et l'inhospitalité de leur caractère. Ne descendant presque jamais dans les vallées d'amour, vivant seuls dans leur retraite, ils étaient craints de tous les autres chemins châtelains des environs, qui savaient qu'il n'y aurait nul moyen pour eux de venir forcer dans leur retraite les sires de Falkenstein. Cependant, un chevalier venait quelquefois au château. Il était attiré par un objet qu'on était surpris de rencontrer dans un lieu si sauvage. C'était la fille du baron de Falkenstein qui attirait le jeune chevalier Beppo. C'est que rien n'était si parfait que la beauté de l'Irmengarde. Ses charmes étaient célèbres dans toute l'Allemagne. Et au dernier tournoi de Speer et de Worms, bien des lances avaient été rompues en son honneur. Bien des chevaliers s'étaient mis sur les rangs pour obtenir sa main, mais avaient été écartés par la brusquerie du vieux sire de Falkenstein. Tous s'étaient laissés rebuter par sa rudesse. Tous, hormis Beppo, encouragés en secret par le regard plus doux d'Irmengarde. Cependant, Beppo n'osait faire la demande de la main d'Irmengarde. 20 fois, prenant la résolution d'avouer son amour, il était venu trouver le baron et chaque fois la parole expirait sur ses lèvres. Lorsqu'il se trouvait en face de cet homme dont l'aspect rude et grossier le forçait au silence. Un jour, cependant, qu'il s'entretenait près d'une fenêtre, de laquelle on découvrait les vastes campagnes du Cronenberg, et qu'ils admiraient le magique bas-tableau qui se déroulait à leurs pieds, « J'avoue, dit Beppo, qu'il n'est point de château aussi bien situé que le vôtre. » Mais qu'il est d'un difficile accès, qui vous y force d'y venir, répondit le baron avec sa brusquerie habituelle. Eh bien, vous l'avouerez, c'est Irmengarde, votre fille. Je l'aime, et j'ai l'espoir d'en être aimé. Je vous demande sa main. Le vieux baron se prit à sourire. C'était un mauvais présage. « Chevalier, lui dit-il, je vous accorde ma fille, mais c'est à une condition. »« Oh, je l'accepte, quelle qu'elle soit, » reprit vivement Beppo, qui voyait déjà toucher au bonheur. « Eh bien, vous acceptez, chevalier Beppo, eh bien, vous aurez ma fille, si cette nuit même, entendez-vous ?» Vous faites creuser dans le roc un chemin sur lequel on puisse venir à cheval jusqu'à la porte de mon château. » Et après avoir dit ces mots, le baron quitta la salle en riant et laissa le malheureux Beppo en proie à l'étonnement et à la douleur. C'était une folie de vouloir seulement tenter l'entreprise. Cependant, Beppo descend dans la plaine de Cronenberg, et, se rendant aux mines Sainte-Marguerite, s'adresse au vieux maître mineur et lui fait part de ses desseins. Mais celui-ci, secouant sa tête blanche, lui répondit « Chevalier, je connais ce rocher. 300 mineurs qui travailleraient 300 journées ne pourraient faire ce que vous demandez. Alors comment voulez-vous que je le prouve en une seule nuit ?» Beppo, voyant qu'il n'y avait plus d'espoir à conserver, alla s'asseoir tristement à l'entrée de la mine et songeait à se précipiter dans le gouffre qui était sous ses yeux. Tout entier à la pensée de son malheur, il restait ainsi immobile et les heures s'écoulaient rapidement. Déjà la rosée du soir s'était exhalée de la prairie. La nuit devenait sombre, le vent était élevé, et, sifflant d'une manière lugubre, s'engouffrait dans l'entrée de la rude mine lorsque Beppo, venant à tourner les yeux, aperçut auprès de lui un homme d'aspect très singulier. Il portait le costume de cuir de mineur. Il avait la lampe et le manteau du travailleur, mais sa barbe était d'un roux peu commun, et ses yeux brillaient d'un éclat non moins extraordinaire. S'adressant à Beppo, « Chevalier, j'ai entendu tout ce que vous venez de dire à votre vieux maître mineur, mais il n'entend pas son métier. Et moi, je vous promets, je vais l'entreprise. » Qui n'osait même pas tenter. « Mais qui es-tu ? » lui demanda Beppo. « Oh, mon nom fait peu à l'affaire. Voulez-vous accepter mon offre à une seule condition ? Et je vous soumets, promets, que demain matin vous gravirez à cheval le sentier taillé dans le roc, aussi commodément que vous vous trouviez sur le chemin de Francfort. Comment je pourrais obtenir Irmengarde ? » s'écria Beppo, qui, comme un malheureux qui se noie, saisissait avidement ce qui croyait pouvoir le sauver. « Mais si tu parviens à tailler ce sentier, ma fortune entière est à toi. Tout ce que tu voudras de moi, sans savoir quelle est ta demande, je te l'accorde. Je donne ici ma parole de chevalier. »« Je l'accepte, » reprit aussitôt le mineur. « À demain, chevalier Beppo, à demain. » Disant ces mots, il disparut aux yeux de Beppo, qui crut qu'il était descendu dans la mine pour chercher les autres travailleurs et commencer l'ouvrage. La nuit était déjà avancée et la 11e heure était passée, et Irmengarde ne songeait pas encore à se livrer au sommeil. Connaissant l'ordre de son père, elle était tristement appuyée auprès de la fenêtre, et, sans conserver le moindre espoir, elle écoutait cependant s'il lui arrivait quelque bruit de la montagne. Mais le silence le plus profond continuait à régner. Elle n'entendait que l'orfraie, qui de temps en temps jetait du haut des tourelles son cri sinistre. La lune, qui s'était montrée et qui brillait d'un assez vif éclat depuis le commencement de la nuit, venait de disparaître derrière des nuages épais. Toute la nature semblait se conformer à la tristesse de la jeune châtelaine. Tout à coup, un bruit étrange vient frapper l'oreille d'Irmengarde. Oh, ce n'était d'abord qu'une rumeur sourde qui semblait s'élever du fond de la vallée. Mais bientôt, elle entend distinctement le bruit des pioches, le fracas des pinces qui entre les rochers. Oh, il n'y a plus à en douter, c'est toute une armée de mineurs qui creusent un chemin dans la montagne. Irmengarde, le cœur tout palpitant de crainte et d'espoir, n'ose porter les yeux sur la campagne. Et le sieur de Frankenstein, éveillé par le bruit des outils, entre dans la salle et, rempli de colère, s'écrie: « Mais il est donc fou, ce Beppo. Il va tellement arracher le chemin que nous ne pourrons pas descendre dans la vallée. » Puis, s'approchant de la fenêtre, il veut regarder les travailleurs. Mais aussitôt, un vent impétueux s'élève. Un orage furieux siffle avec un tel fracas que les portes du château tremblent sur leurs gonds. Puis, au milieu du bruit de la tempête, des éclats de rire se font entendre dans les airs. Irmengard, tout effrayé, se presse contre le vieux baron, qui lui-même perd son assurance, et tous deux balbutient des prières. Et bientôt la tempête se calme, et la nature rentre dans le plus profond silence. Le baron, dont les craintes se dissipent peu à peu, cherche à calmer la frayeur de sa fille et dit que le danger est éloigné, que c'est le chasseur noir qui vient de passer dans les airs. Souvent on a déjà entendu dans le pays. Cependant, pour calmer ses inquiétudes, le baron consent à passer le reste de la nuit dans la chambre de sa fille. Et il ne tarde pas à s'assoupir dans un fauteuil. À peine les premiers rayons du soleil venaient-ils de dorer les plaines de Cronenberg que le Sir Falkenstein est éveillé par le trot et le hennissement d'un cheval. Plein de surprise, il se précipite à la fenêtre et aperçoit un large chemin taillé dans le rocher et sur ce chemin, le chevalier Beppo qui s'avançait de toute la vitesse de son cheval. C'est à peine si le baron de sa fille veulent en croire leurs yeux. Mais il n'y a plus à en douter, c'est bien Beppo. Le voilà qui s'approche. Il est bientôt au terme de sa course. Il va toucher le pont-levis, lorsque tout à coup, des éclats de rire surnaturels, venant à se faire entendre dans les airs, le chemin manque sous les pieds du cheval et Beppo, tombant de rocher en rocher, précipité au fond du ravin. Depuis longtemps, le château de Falkenstein est en ruine, mais le chemin taillé dans le roc subsiste encore parfaitement conservé et a gardé jusqu'à nos jours le nom de « chemin du diable ».